Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Nous allons examiner une parabole ensemble. Une parabole. Non pas celle qui se trouve sur les trois, n'est-ce pas? Bon, on s'en sert pas trop maintenant, mais dans le temps, pour capter les ondes, notamment pour la télé et autres, bah, vous savez, on mettait sur le 3, on les voit encore. Mais non, parabole, dans les évangiles, Jésus qui voulait présenter une vérité spirituelle, bah, il prend les choses de tous les jours pour expliquer cela, et c'est ce qu'il fait ici. Parce que il faut savoir ici dans ce passage, on est en plein milieu d'un grand discours que Jésus fait sur le mont des Oliviers suite à la question de ses disciples. Ben, la fin du monde, quand est-ce? Comment est-ce qu'on saura comment ça va se passer? Quand est-ce que tu vas établir toute chose? Et chapitre 24, chapitre 25, Jésus est en train de répondre à cette question pour essayer d'aider ses disciples et puis d'autres à expliquer la fin du monde, bah, ce sera comment, et aussi notre tâche. Et c'est notamment ce que nous allons examiner aujourd'hui, Matthieu chapitre 25, à partir de verset 14. À partir de verset 14, Matthieu chapitre 25, permettez-moi de lire jusqu'au verset 30. Après quoi, nous prierons pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Matthieu chapitre 25, à partir de verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien. » Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'avais pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voulons placer ces moments entre tes mains, que tu puisses parler à travers ta parole, que tu touches le cœur de chacun, que nous ne soyons pas insensibles à ce que tu as pour nous et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour l'œuvre que tu feras en chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, je suis certain pour la plupart d'entre nous, cette histoire, cette parabole est assez bien connue. Si on dit, voilà, la parabole des talents, nous savons plus ou moins de quoi il s'agit. Mais est-ce que nous nous rendons compte toujours des conséquences pour nous aujourd'hui? Ou est-ce que c'est une histoire, une parabole que Jésus a racontée il y a des milliers d'années et qui était pour les gens de son époque et que, bon, nous en tirons quelques principes, mais bon, pas trop des conséquences sur notre vie de tous les jours. Si nous ne faisons pas attention, j'ai peur, parce que je le constate dans ma propre vie, j'ai peur que nous pouvons tomber dans ce piège de croire que, ah, c'est une belle histoire, ça fait réfléchir un peu, mais il n'y a pas vraiment de changement. Il n'y a rien suite à la lecture, suite même à la méditation de ceci. Et cette parabole, avec les autres qui l'entourent, en commençant avec le début du chapitre 24 pour aller jusqu'à la fin du chapitre 25, ce grand discours que Jésus fait est quand même très important. Jésus ne voulait pas laisser ses disciples dans l'ignorance. Et s'il prend le temps d'expliquer toutes ces choses à ses disciples à cette époque, c'est tout aussi valable pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, ben, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et à la fin de ce livre, Jésus va dire à ses disciples, après sa résurrection, allez, donc littéralement en allant, l'ordre n'était pas d'aller, non, c'était partout où vous êtes, faire des disciples. Et Jésus a enseigné ses disciples afin qu'eux, ils soient capables d'enseigner d'autres et ainsi de suite, comme Paul va expliquer dans 2 Timothée. Et Jésus voulait enseigner, voulait préparer ses disciples. Et si nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous l'avons reçu par la foi, à un moment donné, ben cet enseignement est pour nous aujourd'hui, Vernon, 21e siècle, dans un contexte très très différent de celui dans lequel ont vécu les premiers disciples, et pourtant les principes sont là, et ces principes doivent impacter notre vie, doivent faire une différence. Nous ne devrions pas rester insensibles en disant, ah, c'est pas mal, mais sans plus. Non, au contraire, ces choses doivent nous toucher. Et c'est justement, lorsque nous voyons le verset 14, il en sera comme un homme, donc il en sera. Ben, quoi? Ben, c'est justement cette fin du monde dont parle Jésus, c'est la fin des temps. Il parle du temps entre son départ et puis son retour. Jésus-Christ est remonté au ciel, n'est-ce pas? L'ascension, on le célèbre là jeudi. Il est reparti au ciel. Jean chapitre 14, il dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparé, je reviens. Donc il part, il revient. Et il voulait montrer cela à ses disciples à travers cette parabole. Donc il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Ses serviteurs. Littéralement, le mot esclave. Doulos, qui est là. Esclave. Et nous, nous disons serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Esclave de Dieu. Si nous sommes chrétiens, ben, nous avons cette responsabilité de nous mettre au service de Dieu. Et déjà de se poser la question, suis-je au service de Dieu? Et si c'est le cas, ben, qu'est-ce que je fais de cela? Si je suis chrétien, c'est-à-dire j'ai une relation personnelle avec Dieu, à un moment donné, j'ai placé ma foi, confiance en Jésus-Christ seul, sans rien d'autre, pour le salut. Et si j'ai fait cela, je suis serviteur de Dieu, si je le veuille ou pas. Maintenant, est-ce que je me comporte en serviteur de Dieu? C'est toute une autre histoire. Mais si je suis sauvé, je suis serviteur de Dieu. Donc, ceci s'applique à nous. Ceci s'applique à ceux qui sont sauvés. Et dans notre service pour Dieu, Dieu ne veut pas que nous le fassions n'importe comment, comme nous voyons dans ces versets. Et il y a des principes à retenir dans notre service que nous faisons pour Dieu, que nous allons examiner pendant quelques minutes. Mais déjà, la question à se poser, suis-je en train de servir Dieu? Est-ce que je peux regarder ma vie? Est-ce que quelqu'un d'autre peut regarder ma vie et constater de manière indéniable, oui, cette personne est au service de Dieu. Ou je peux dire, oui, avec telle ou telle preuve, je vois que, par la grâce de Dieu, je suis au service de Dieu. Je travaille pour Dieu. Ce n'est pas limité aux pasteurs, ce n'est pas simplement limité à ceux qui sont à plein temps, comme on le dit. Non, non, c'est chaque chrétien. Chaque personne sauvée par grâce est au service du Seigneur. Et une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est que notre temps de service est limité. Cet homme, il a appelé ses serviteurs. Donc, ils sont là et il va leur confier une tâche. Et au verset 14, regardez, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Avec notre ami Patrick, on a fait un petit voyage vendredi, très court, 39 kilomètres, c'est tout, à pied. On a fait un voyage. Et on savait quand on allait partir. On savait à peu près, enfin, on avait projeté de revenir à une certaine heure. On n'est pas revenu à cette heure, on est revenu un peu plus tard. Mais voilà, on était parti et on savait à peu près à quelle heure on revenait. Mais dans cette histoire, vous l'avez remarqué, ses serviteurs, ils ne savaient pas quand leur maître reviendrait. Il est parti pour un voyage, et puis regardez, verset 19, longtemps après, un certain temps s'est écoulé. Il confie ses tâches à ses serviteurs, et apparemment, il ne leur dit pas quand il reviendra. Ils doivent s'occuper à ces tâches qu'il leur a données, notamment ces talents qu'il leur confie, mais ils ne savaient pas quand ils reviendraient. Par contre, ils avaient cette certitude qu'ils reviendraient. Et cela voulait dire que leur temps était limité. Ils ne savaient pas combien de temps ils avaient, mais ils savaient qu'un jour, leur maître reviendrait. Et n'est-ce pas le cas pour nous? Si nous sommes sauvés par grâce, nous savons qu'un jour Jésus-Christ revient. Nous ne savons pas quand. Beaucoup ont tenté de dire, d'essayer de déterminer quand Jésus-Christ reviendra. C'est un exercice inutile, qui fait perdre du temps. Nous ne savons pas, et ce n'est pas à nous de savoir quand il reviendra. Ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'il reviendra, et que notre temps est limité sur cette terre. Un jour, si le Seigneur ne revient pas avant, nous mourrons. Notre vie aura une fin. Et notre temps de travail, de service pour Dieu, ici sur sa terre, sera terminé. Et je me demande, pour chacun d'entre nous, le moment de notre mort, ou bien le moment où Jésus-Christ reviendra. Et nous verrons à ce moment-là tout ce que nous aurions pu accomplir pour Dieu. Aurions-nous des regrets? Je suis obligé de croire que oui. Moi, j'en aurai, certainement. Lorsque j'examine ma vie devant Dieu, j'en aurai. Si vous examinez votre vie, vous en aurez, certainement aussi. Parce que notre temps est limité. Et comment est-ce que nous utilisons ce temps? Ce que nous n'accomplissons pas hier, ce que nous n'avons pas accompli hier, ce n'est pas dit que nous allons pouvoir l'accomplir aujourd'hui ou demain. Vous savez, ce mot procrastination, remettre à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Pourquoi est-ce si mauvais? C'est parce que nous ne savons pas si nous aurons demain. Quelqu'un auquel nous pouvons témoigner aujourd'hui, on n'aura peut-être pas cette occasion demain. Un frère ou une sœur dans le besoin et on n'aide pas aujourd'hui, on n'aura peut-être pas cette occasion demain. Travailler pour le Seigneur, nous avons l'assurance d'aujourd'hui, de cet instant. Nous n'avons pas l'assurance de demain. Nous ne savons pas ce que Dieu réserve pour nous. Notre temps est limité. Et tout comme ces serviteurs qui savaient très bien que leur maître qui était parti en voyage et qui reviendrait à un moment donné, ils ne savaient pas quand. Ce maître aurait pu revenir à n'importe quel moment et ce temps de service serait terminé. Et de réfléchir sur notre vie, notre temps limité pour le Seigneur. Que faisons-nous? Si nous devions faire le bilan, est-ce que nous utilisons bien notre temps pour le Seigneur? Ou est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer dans notre vie? Des choses que je dois éliminer, les choses que je dois intégrer, les choses que je peux faire plus pour le Seigneur qui compteront pour son royaume et pour sa gloire. Ses serviteurs, au moins deux d'entre eux, ils avaient bien compris. Ils devaient travailler. Ils étaient au service de leur maître et ils ont bien fait. Avec le temps limité qu'ils avaient, même s'il est question de long temps, au verset 19, c'était quand même limité. Et deux de ses serviteurs, ils ont bien fait. Le troisième, lui, il n'a rien fait. Il s'est dit, un jour ça arrivera, mais je ne vais pas travailler pendant ce temps-là. Je ne vais pas faire travailler cet argent, ce talent que mon maître m'a confié. Non. Verset 25, « Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il n'a rien fait avec le temps qui lui était donné. Et ce maître va dire, « Mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais voulu. Tu n'as rien fait, tu en subiras les conséquences. » Donc, notre temps est limité. Que faisons-nous avec ce temps limité? Est-ce que nous dilapidons ce temps à droite et à gauche? Est-ce que nous nous occupons de toutes nos responsabilités, souvent très légitimes, sans accorder à Dieu et son œuvre la place qu'ils doivent occuper dans notre vie? Sommes-nous comme les deux premiers serviteurs ou est-ce que nous sommes comme le troisième, avec le temps que nous avons? Une question à se poser. Mais non seulement le temps de ces serviteurs et la nôtre était limité, nous comprenons aussi à travers ces versets que nous ne sommes que des gestionnaires. Verset 14. Oui, cet homme qui partait pour un voyage va appeler ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il va confier à ses serviteurs ses biens. Alors, verset 24, verset 24 à 27. Regardez, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite. Il lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'avais pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et ce maître, au verset 27, il va dire, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec intérêt. Ce maître avait confié certains de ses biens à ses hommes. Ces biens n'appartenaient pas à ces hommes. Ils étaient de simples gestionnaires et ils étaient responsables de leur gestion. Et dans notre vie, le parallèle se fait. Dans notre vie, notre travail pour le Seigneur, ce que nous avons, en réalité, ne nous appartient pas en propre. Nous sommes des gestionnaires. Ce que nous mangeons, ce que nous avons, notre maison, notre voiture, toutes les choses que nous avons, en fait, sont des choses que Dieu nous permet d'avoir. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et avec le temps limité que nous avons, comment est-ce que nous gérons, à la fois le temps, bien sûr, mais les choses matérielles que Dieu nous accorde? Les choses matérielles sont utiles. Il en faut dans la vie. Mais comment est-ce que nous utilisons ces choses? Malheureusement, trop souvent, nous tombons dans ce piège de croire que les choses matérielles que nous avons, c'est à nous. Dieu peut se servir de toutes ces autres choses, mais bon, les choses que j'ai, ça m'appartient. Je fais ce que je veux avec. Et nous tombons dans ce piège de ce troisième serviteur qui lui s'est dit, je vais faire ce que je veux avec ce talent. Je ne vais pas penser en bien de mon maître, mais je vais voir que le côté négatif. Comment il parle de son maître au verset 24. Il pense que c'est un homme dur, qui en fait trompe les autres, qui vole, et il a eu peur, verset 25, et là, il n'a rien fait avec son talent. Sa gestion, c'était en fait de ne rien faire. Et il en a subi les conséquences. Et aujourd'hui, Dieu nous confie des biens. Gloire à Dieu. Et Dieu est généreux, Dieu est bon. Et qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne à gérer? Comme Paul va dire aux Corinthiens, ce qu'il faut pour les serviteurs, c'est qu'il faut trouver fidèles, n'est-ce pas? Fidèles dans leur gestion, fidèles dans cette tâche qu'il leur est confiée. Et de se souvenir que nous ne sommes que des gestionnaires. Et avec toutes les choses matérielles que Dieu nous donne, que ce soit beaucoup, que ce soit peu, de se souvenir, cela vient de Dieu. Certes, nous avons travaillé. Certes, nous avons acheté telle ou telle chose. Mais qui donne la force pour travailler? Ce ne sont pas les médecins. Ce n'est pas la technologie. Ce n'est pas la science. Non, la force pour faire des choses, pour travailler, pour, comme on dit, gagner sa vie, ça vient de Dieu. Et nous sommes des gestionnaires. Et nous aurons à rendre compte. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Parce que ces choses qu'ils avaient, ces talents, ne leur appartenaient pas. Il les gérait pour un certain temps. Mais après, il fallait rendre compte au maître. Et pour nous, les choses matérielles, et d'autant plus les dons spirituel que nous avons. Ce n'est pas juste pour nous. Cela ne nous appartient pas en propre. Non. Dieu nous donne des choses matérielles. Dieu nous donne des capacités aussi spirituelles, ce que on va appeler dans le Nouveau Testament des charismes. Pour, comme Paul va expliquer dans la première épître aux Corinthiens chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, l'utilité commune. Pour que tous soient édifiés, distribués par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais ces choses, ce n'est pas pour se glorifier, pour dire j'ai autant de telle ou telle chose, j'ai la nouvelle, et là vous insérez ce que vous voulez, j'ai tel ou tel don spirituel, regardez-moi. Non, c'est ceci vient de Dieu, je le mets au service de Dieu et de son œuvre. Qui dit esclave, qui dit serviteur, veut dire il y a un maître, il y a quelqu'un au-dessus. Et Dieu est au-dessus de nous, il nous voit, il nous regarde. Ce maître dans cette histoire, il ne savait pas ce que ses serviteurs faisaient quand il était parti. Mais Dieu nous voit, il sait comment nous travaillons aujourd'hui, il sait comment nous gérons aujourd'hui, on ne peut rien lui cacher. Et de se poser la question, comment est-ce que je gère tout ce que Dieu me donne? Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, est-ce que je limite mon service pour Dieu parce que je suis un mauvais gestionnaire? Est-ce que je dois revoir ma gestion de ce que Dieu me donne? Est-ce qu'il y a des changements qui doivent être faits dans ma vie pour que je sois un meilleur gestionnaire? Vous savez, dans le domaine des finances, les hommes sont toujours en train de chercher un meilleur moyen de gérer leur argent. Pour avoir le moins de frais possible, pour que ça rentre et que cela donne le plus possible, ils sont toujours en train de chercher comment ils peuvent tourner les choses et faire circuler l'argent. Ils sont toujours en train de manipuler cela. Ils ne sont jamais satisfaits avec tel ou tel taux, non, ils veulent soit toujours plus ou un taux toujours plus intéressant. Et dans notre gestion pour le Seigneur, est-ce que nous sommes en train de continuellement revoir cette gestion en disant, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux mieux faire pour le Seigneur dans ma gestion? Sinon, on sera comme ce troisième serviteur qui n'a vu que le côté négatif, qui n'a pas bien représenté son maître. Et comme nous voyons, on a subi les conséquences. Alors, notre temps est limité, bien sûr. Nous ne sommes que des gestionnaires. Mais, vous l'avez vu au verset 15 aussi, notre responsabilité est en fonction de notre capacité. Ce maître au verset 15 donne à 5 talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et après, il partit. Il s'est assuré que tout était en ordre et il a donné à chacun selon la capacité qu'il savait qu'il était capable de gérer. Et parfois, cela nous arrive, vous le savez, vous l'avez peut-être vécu. On regarde quelqu'un, on regarde ses capacités, ses talents, ses dons, et on se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais être comme? Et là, on met le nom de quelqu'un, même si on ne le dit pas, peut-être on le pense, ah, telle ou telle personne, qu'est-ce qu'elle arrive bien à faire? Voilà, telle ou telle chose. Et, ah, si seulement je pouvais être comme cette personne. Moi, je ne peux faire que, je n'ai pas les capacités de l'autre. Et Dieu le sait. Et Dieu ne se trompe pas. Et si Dieu nous a confié des responsabilités, s'il nous a confié des dons, s'il nous a donné certaines choses, il sait que c'est selon notre capacité. Et s'il ne nous a pas donné certaines choses, c'est parce que il sait que ce n'est pas selon notre capacité. Il a donné deux talents à ce deuxième parce qu'il savait qu'il était capable de gérer ces deux. Il n'était pas capable de gérer les cinq talents, sinon il les aurait donnés. Il n'a pas donné juste un seul parce qu'il savait qu'il était capable de faire plus. Non, il lui a donné deux talents. Pareil pour celui qui avait cinq et celui qui avait un, ben, c'était à chaque fois selon ses capacités. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans la jalousie en disant, bah, Dieu a tellement béni telle ou telle personne, Dieu a tellement équipé telle ou telle personne, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être comme un tel, une telle, pouvoir faire telle ou telle chose, pouvoir travailler, pouvoir parler. Et certes, il y a des domaines où nous pouvons nous perfectionner, nous pouvons grandir. Mais comme vous le savez, ben pour certains, certaines choses viennent assez facilement. Ils ont une facilité soit de parler ou de travailler, de faire certaines choses. Et Dieu va nous accorder des dons, des talents, des responsabilités en fonction de notre capacité. Et Satan voudrait que nous tombions dans la jalousie, que nous laissions cela nous bloquer en disant « Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme un tel ou une telle ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Ou pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas demandé d'eux ?» Et Dieu, lui, voit le cœur, Dieu, lui, voit tous les paramètres et il va donner en fonction de notre capacité. Et pour le chrétien qui s'engage pour Dieu, il s'agit d'éliminer toute jalousie, toute mauvaise pensée qui se glisse tellement facilement dans notre cœur humain, mauvais, tordu, n'est-ce pas? Et ces hommes, dans cette histoire, ont rendu compte, non pas pour ce qu'ont fait les autres, mais pour ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et celui qui avait cinq, ben, il en a ramené cinq autres. On ne lui a pas demandé d'en ramener dix, ou deux? Non, c'était cinq. Et celui qui avait deux, le maître n'a pas dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas ramené cinq comme l'autre? Non, il en a ramené deux selon ses moyens. Et pour nous, un jour, Dieu va nous demander, pourquoi est-ce que nous avons fait ou ne pas fait telle ou telle chose selon notre capacité? Il ne nous comparera pas aux autres chrétiens en disant, regarde, un tel ou tel a fait toutes ces choses, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait cela? Il sait que c'est selon nos capacités. Et veille à ce que nous agissions selon nos capacités. Si nous sommes comme ce troisième serviteur qui, lui, malgré ses capacités, n'a rien fait, alors là, effectivement, nous sommes coupables. Là, nous sommes, dans ce sens, condamnables. Mais Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous équipe. Et il ne nous demandera pas d'aller au-delà de ce pourquoi il nous a équipés. Parfois, nous aimerions aller au-delà. Nous aimerions faire plus, mais peut-être Dieu ne nous a pas équipés pour cela. Il ne faut pas tomber dans la tristesse, dans la jalousie ou que sais-je encore. Non, il s'agit de remercier Dieu pour ce qu'il nous a confié et pour la capacité qu'il nous donne aujourd'hui d'accomplir son œuvre. Et de savoir que Dieu va exiger de nous que nous agissions en fonction de notre capacité, mais il n'exigera jamais au-delà de cela. Et c'est sa grâce qui nous aidera à aller jusqu'au bout de notre capacité pour lui. Donc, notre temps est limité. Oui, il faut agir aujourd'hui. Et nous ne sommes que des gestionnaires, ce que nous avons ne nous appartient pas. En propre, notre responsabilité n'est pas de regarder les autres et ce que eux y font, mais de regarder ce que nous faisons selon notre capacité. Et puis, aussi, à partir de verset 19, nous le voyons bien, nous serons jugés sur la base de notre travail. Nous serons jugés sur la base de notre travail et non pas celui des autres. Verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu les 5 talents, verset 20, s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Et la réponse de son maître, verset 21, regardez, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ce premier serviteur, sur la base de ce qu'il avait reçu, il avait fait ce qu'il a pu. Le maître n'a pas dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme un autre? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé plus loin? Pourquoi est-ce que tu n'as pas ramené plus? Tu aurais dû, mais regarde, tu n'as fait que ça? Mais c'est pas possible. Non, il dit tout simplement, tu as bien fait. Tu as fait selon tes capacités, tu as bien travaillé, et là, je te confierai encore d'autres choses parce que je vois que tu es digne de confiance. Et verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ici, il n'a pas dit pourquoi est-ce que tu n'as pas ramené 5 autres comme le premier. Le premier, il en a ramené 5, et toi, tu ne ramènes que 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas assez travaillé, tu n'es pas vraiment allé jusqu'au bout. Non, mais c'est pas possible. Non. Ce deuxième serviteur ne répondait pas pour l'autre. Non, il répondait pour lui-même. Avec ce que on lui a confié. Et ce maître de ses serviteurs avait très bien compris. Ils ne pouvaient pas exiger au-delà de leurs capacités. Et il les a jugés sur la base de leurs capacités et de leur travail. Et nous voyons les bonnes conséquences, le bon fruit pour ces 2 premiers. Ils auront la charge de choses encore plus grandes. Ils ont été trouvés fidèles dans ces petites choses. Et cela allait de plus en plus, dans ces petites choses, après, il passerait encore de plus en plus grand. Et il dit, c'est bien, dans les 2 cas, bon et fidèle serviteur. Et nous reprenons souvent cette phrase en disant, qu'est-ce que j'aimerais entendre cela, un jour arriver au ciel, bien et fidèle, bon, tu as fait bien, bon et fidèle serviteur, qu'est-ce qu'on aimerait entendre cela de la part de Dieu, quand on sera au ciel. Mais il ne s'agit pas de nous comparer aux autres en disant, un tel ou tel a tant travaillé. Oui, mais ça le regarde. Ça, c'est entre lui et Dieu, n'est-ce pas? Il fait avec ses capacités. Et Dieu ne me jugera pas et ne me récompensera pas selon le travail des autres. Non, il me récompensera, il me jugera sur la base de mon propre travail. Et si Dieu me confie peu de choses, je dois être fidèle dans ces peu de choses. Et si Dieu me confie de grandes choses, d'autant plus, je dois être fidèle dans ces grandes choses. Et ces 2 premiers serviteurs, ils avaient bien agi. Ils ont travaillé selon leur capacité, le maître a reconnu cela et les a bénis, les a récompensés en conséquence. Mais à partir du verset 24, ces versets que nous avons lus, ce 3e serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? il ne va pas travailler. Il ne va pas travailler. Il ne fait rien. Il va cacher ce talent, donc cette pièce de monnaie, dans la terre. Il ne fait rien parce qu'il a peur de son maître. Il n'a pas une bonne relation avec son maître. Et d'ailleurs, ce passage prouve qu'il n'a pas du tout de relation avec son maître. Parce que lorsque nous lisons la suite à partir du verset 28, les conséquences qui tombent sur ce serviteur, ce troisième serviteur, montrent en fait qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Il s'était associé aux deux premiers, était parmi ceux qui s'appelaient serviteurs de Dieu, mais en réalité, cet homme n'était pas sauvé. Parce qu'à la fin, verset 30, il est jeté dehors dans ces ténèbres, là où il y a les grincements de dents. C'est cette description du jugement éternel. Parfois, cette description est employée pour l'enfer également. Et nous voyons que ce troisième serviteur n'avait pas de relation avec son maître, n'était pas sauvé. Sinon, il aurait travaillé. Mais son manque de travail montrait qu'il n'était pas sauvé. Non pas qu'on travaille pour être sauvé, non, c'est pas du tout cela, et vous le savez. Mais tout comme Jacques le dit, nous travaillons parce que nous sommes sauvés. C'est notre travail qui prouve la réalité de notre foi. Nous pouvons dire avoir la foi tout haut, partout, mais si nous n'avons pas les œuvres, le fruit qui va avec, on n'a pas l'assurance d'avoir la foi qui sauve. Alors que la vraie foi va se manifester à travers les œuvres. Et ici, les deux premiers serviteurs, parce que ils ont travaillé, ils ont bien agi, ils ont été récompensés pour leur travail selon leur capacité. Mais ce troisième serviteur, par son manque de travail, aucun fruit, il n'a rien apporté, malheureusement montre qu'il n'avait pas de relation avec son maître. Il était perdu, même s'il s'associait à ses serviteurs, même s'il parlait. Au verset 24, il dit « Seigneur ». Il reconnaît, il dit « c'est le Seigneur », mais pas de relation. Non, il était perdu. Et d'examiner notre vie, notre travail pour le Seigneur, nous pouvons nous dire serviteurs de Dieu. Le sommes-nous vraiment? Avons-nous, à un moment donné, accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel? Je sais que beaucoup ici l'ont fait pour avoir entendu des témoignages, et gloire à Dieu pour cela. Mais ce n'est pas parce qu'on s'appelle serviteur de Dieu qu'on l'est réellement, qu'on a une relation avec le Maître. Non, cela passe par la foi en Jésus-Christ seul, sans rien d'autre. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, est-ce que nous nous souvenons que notre temps est limité? Nous n'avons pas l'assurance de demain. Le travail pour Dieu, on ne peut pas dire « je ferai ça demain ». Aujourd'hui, je m'occupe de mes affaires. Aujourd'hui, c'est pour moi, je fais ce que je veux. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Que nous ne sommes que des gestionnaires, ce que nous avons nous vient de la part de Dieu. Nous serons, notre responsabilité est donnée en fonction de notre capacité. Aucune place pour la jalousie ou de mauvaises pensées. Que nous serons jugés sur la base de notre travail, non pas le travail des autres, mais notre travail pour le Seigneur. Et dans notre vie, d'examiner, faire le bilan. Laissez Dieu, surtout, nous examiner, parce que parfois, nous ne sommes pas tout à fait honnêtes avec nous-mêmes. Notre cœur mauvais, tordu, veut nous tromper, veut nous faire dire que nous sommes meilleurs que nous sommes, veut nous dire, tout va bien. Pas de changement, peut-être quelques petits ajustements, mais rien de radical. Alors que peut-être Dieu, par sa parole, lui dit non, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Et lorsque nous nous souvenons de cette parabole, de ces trois serviteurs, où sommes-nous? Sommes-nous comme les deux premiers? Est-ce que nous nous engageons avec le temps que Dieu nous donne, avec les ressources qu'il nous donne, pour sa gloire? Sommes-nous comme quelqu'un qui ne travaille pas autant que Dieu voudrait? Ou peut-être nous trompons-nous entièrement et nous ne sommes pas vraiment serviteurs de Dieu, c'est-à-dire nous n'avons jamais accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Posons-nous la question. Examinons-nous. Notre service pour Dieu, comment est-ce que nous le faisons? Déjà, travaillons-nous pour le Seigneur? Et si oui, comment est-ce que nous le faisons? Nous savons comment Dieu voudrait que nous le fassions. Après, que ferons-nous? Que Dieu nous aide à prendre la décision de travailler de plus en plus pour lui aujourd'hui et que cela puisse être pour sa gloire. Prions. Oui, Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité. Nous savons que tu es en train d'agir. Tu n'es pas un Dieu passif et ta parole est puissante. Elle est comme cette épée à deux tranchants. Et Seigneur, que nous ne restions pas insensibles, indifférents, passifs, sans rien faire, sans rien remettre en question. Au contraire, Seigneur, que tu nous aides à nous examiner, à te laisser éclairer les coins les plus reculés de notre cœur avec ta parole, pour nous montrer ce qui doit changer, et que par ta grâce, tu nous aides à le faire, que nous sortions d'ici transformés parce que nous avons entendu ta parole et parce que nous aurons pris cette décision de la mettre en pratique, de te servir davantage par ta grâce et par ta force, et que toute la gloire te revienne pour cela. Entendons-nous, prions. Amen.